Fréquencier, info locale, déconfinement.
Alors Bernard Darcourt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la fédération France-Silva, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, France-Silva 72, c'est notre syndicat des promoteurs forestiers privés de la Sarthe.
Alors tout d'abord, pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez nous présenter le syndicat?
Alors notre syndicat, en fait, avant de vous présenter notre syndicat, je vais juste vous donner et situer la Sarthe en termes forestiers, parce que ça c'est important. 19% de la surface totale est boisée et 85% de la surface forestière de la Sarthe est privée, avec 30 000 propriétaires et 120 000 hectares. Donc nous avons dans notre syndicat environ 800 adhérents. Et donc on est propriétaire forestier à partir d'un demi-hectare ou d'un hectare. Et donc on a une multiplicité de propriétaires au sein de notre syndicat qui sont toutes assez représentatifs des propriétaires que l'on peut retrouver en Sarthe.
Alors aujourd'hui, quelles sont les actions de France-Silva?
Alors, là aussi, notre syndicat, il va servir autour du monde de la forêt à la fois alerter et sensibiliser le public et à la fois organiser des opérations pour nos adhérents pour les initier à différentes thématiques. Et on va sans doute au cours de cet entretien en balayer quelques-uns. On va parler bien sûr de l'aspect du public et pourquoi est-ce qu'on a fait un communiqué, mais on va parler aussi biodiversité, on va parler sylviculture et on va parler projet d'avenir sur nos forêts. Voilà, donc ça c'est le rôle premier de notre syndicat. Si on parle de la forêt, et on abordera au cours de cet entretien à la fois un peu de forêt publique et un peu de forêt privée, parce que on travaille ensemble et on fait beaucoup de choses ensemble. La forêt, c'est d'abord une source pour y produire du bois. Et ce bois va alimenter plusieurs filières avec différentes sylvicultures. Ça, c'est le travail des forestiers. C'est comme un agriculteur. L'agriculteur, lui, va avoir une production annuelle de céréales, par exemple, et puis il va venir les récolter. Eh bien, nous autres forestiers, ce qui fait notre spécificité, c'est que nous sommes des maillons. En fait, on travaille pour les générations futures et on récolte le fruit du travail de nos aînés. Et ça, c'est tout à fait atypique. Dans le monde d'aujourd'hui, où on veut tout de suite, on veut faire trop vite, eh bien la forêt, le monde de la forêt travaille sur le temps long. Et ça, même si on a des essences qui peuvent être des essences à rotation rapide, courte, le peuplier, un certain nombre de résineux, on va travailler quand même sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années quand il s'agira d'essences type chêne, par exemple. Et donc ça, c'est ce qui fait vraiment notre force. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de forêt publique et forêt privée? Parce que le monde des forestiers, on a un travail globalement commun. À ceci près, les forêts publiques, ils ont une tâche immense à accomplir. Et ça, il faut que le public l'entende. On leur demande de produire du bois, d'accueillir du public, toujours plus exigeant, et de travailler sur la biodiversité, la préserver, et puis préserver un équilibre faune-flore. Alors là, pour ça, on a les agents de l'ONF qui font un travail difficile et exigeant. Et c'est sans doute ce qui fait la différence entre les forêts privées et les forêts publiques, c'est qu'ils sont organisés pour faire ce travail, même si parfois ils peuvent manquer de moyens. Et en Sarthe, on a de la chance, on a, et vous êtes bien placé pour le savoir, on a que trois grands sites de forêts publiques, la forêt de Sillé, bien sûr, la forêt de Bercé et la forêt de Persenne. Et donc ça, c'est important de remettre dans le contexte quel est le rôle d'un forestier et quelles vont être les contraintes. Donc notre syndicat, nous, il va être au cœur de ce dispositif pour alerter, pour former et pour accompagner nos adhérents. Alors pourquoi un communiqué? Alors c'est vrai que il y a eu des retours dans la presse écrite et je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui sur votre antenne. On a fait un communiqué parce que on vient de traverser une période tout à fait atypique. Confinement, on a tous été marqués par le confinement. Et au moment du déconfinement, on a dit allez en forêt, elles sont accessibles. Et on a dit ça un petit peu vite, sans trop réfléchir. Et ça, c'est le rôle, et mon rôle à moi, aujourd'hui, à la tête de France-Silva 72, c'est un peu d'alerter le public et de dire, il y a aussi une forêt privée. On ne pénètre en forêt privée qu'avec l'accord du propriétaire. Et ça, c'est important parce que le caractère, on va dire, privatif, il est quand même incontournable. On ne va pas dans un champ de blé pour y pique-niquer. Eh bien, en forêt, il faut savoir que c'est un peu la même chose. Alors, il y a des forêts privées ouvertes au public. Il y en a pas mal. Et il y a des forêts privées qui ouvrent leurs forêts pour quelques jours ou pour des manifestations particulières. Et puis, il y a des forêts privés qui ne souhaitent pas parce que leur mode de sylviculture, parce que leur personnel ne leur permet pas. Et en ce moment, on a voulu alerter sur les quelques risques que nous avons en Sarthe. Le premier, vous avez pu remarquer, il y a peu d'eau, pluviométrie assez faible depuis plusieurs mois. Le département était, il y a jusqu'à la semaine dernière, en vigilance incendie. Il a fait chaud, il y avait du vent. Et dans certaines parties de massifs de la Sarthe, on a quand même des résineux qui peuvent être extrêmement sensibles à des départs de feu. Le Mans, on a connu un autour du Mans il y a quelques années. Ça, c'est le premier. Le second, que tout le monde doit intégrer, qui est la maladie de Lyme, qui est très importante, c'est la morsure de tique, et sur lequel, bien sûr, il va falloir, il faut être vigilant. On se promène pas en forêt sans regarder, particulièrement au mois de mai, au printemps et à l'été, ce qu'il se passe. Notre rôle aussi, c'est d'alerter notre public et vos auditeurs là-dessus. Et puis il y a quelques dépérissements d'arbres. Et là, on va parler de d'épicéa. Il y a de grandes séries de dépérissements dans l'est de la France. Il commence à y en avoir en Sarthe par des scolytes qui sont des insectes qui viennent et qui risquent de faire tomber des branches et des arbres. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un propriétaire privé, vous venez chez lui sans le prévenir et vous prenez une branche sur la tête, c'est lui qui est responsable. Et donc là, c'est un risque majeur pour eux. Et s'ils n'ont pas été mis au courant, s'ils n'ont pas partagé l'accueil du public et qu'ils ne se sont pas préservés pour ça, entre guillemets, en s'assurant, et ça c'est ce que nous offrons, nous, syndicats, c'est de pouvoir être, faire son bois tout seul chez soi, accueillir ses amis, faire travailler d'autres personnes, si nous ne sommes pas assurés, là les risques sont importants. Alors la pédagogie. Pédagogie du promeneur, elle est très importante parce que comment peut-il savoir que les parcelles dans lesquelles il rentre ne sont pas des zones fragiles qui mettraient en péril un écosystème. Voilà, ça c'est notre rôle et c'est un peu pour ça que j'ai voulu faire ce communiqué dont on parle aujourd'hui.
Alors peut-être pour revenir à la forêt en Sarthe, est-ce que vous auriez les chiffres de la superficie et du taux de boisement en Pays de la Loire et en Sarthe?
Absolument. Alors sur la Sarthe, c'est 120 000 hectares de forêt, et là de forêt privée, avec de très gros massifs sur les forêts publiques. Voilà, et c'est le département de la Sarthe est le plus boisé. Alors vous allez en Loire-Atlantique, c'est très faible. En Vendée, c'est très faible. Maine-et-Loire, c'est davantage. Mayenne, davantage. Mais la Sarthe est plus forestière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que au moment, on voit bien que les Sartois sont attachés à leur massif forestier. Et parfois, c'est intéressant parce qu'ils se posent plein de questions auxquelles, que ce soit les agents de l'ONF ou les frères public et que ce soit notre syndicat pour les forêts privées, eh bien on essaye de répondre de plus en plus à des demandes de plus en plus pointues de la part du public. Ça, c'est intéressant.
Alors, quelles sont les essences et les productions qu'on peut trouver dans les forêts privées sartoises?
Alors, vous avez deux types, enfin, vous avez deux grandes familles d'arbres. Vous avez les feuillus et les résineux. Les feuillus, on va parler de chênes, de hêtres, principalement, bien sûr. Peuplier quand il y en a, et puis les résineux. Et là, ces résineux, vous en trouvez dans certains secteurs du Mans, autour du Mans, vous en avez, et j'espère qu'on aura l'occasion de parler d'un gros projet de charte forestière qui est dans le pays de l'Orée du Bois Bélinois, où il y a une grande partie de résineux, de Douglas, d'épicéa, qui vont servir. Alors, ces essences, elles vont toutes avoir des destinations différentes. On va parler du chêne qui est qui lui, dans lequel on peut faire, j'aime pas cette expression, mais un peu d'épicerie, c'est-à-dire qu'on va avoir des pièces de bois qui vont être de très très haute qualité jusqu'à des pièces de bois de très basse qualité. Et donc on va pouvoir faire dans un chêne, on va pouvoir faire des traverses de chemin de fer, mais en même temps des douelles pour faire des fûts pour le vin. Et puis on va avoir des essences qui vont servir à être dans la construction, être dans voilà, les usages sont que ce soit de l'escalier, de la construction, des charpentes, enfin le bois sert de plus en plus. On voit bien que les architectes travaillent sur cette notion. Pour l'instant, c'est vrai que de temps en temps, on voit bien qu'il y a de l'importation de bois du nord de l'Europe. Bon, mais ça, c'est à nous de travailler en filière, à nous de travailler avec le monde des scieurs pour pouvoir progresser sur ce sujet-là.
Alors, cette production, c'est le rôle d'un sylviculteur. Est-ce qu'il a une action sur le territoire sartois aujourd'hui, ce sylviculteur?
Oui. Alors, c'est un rôle. Le rôle du sylviculteur, c'est un rôle magique. C'est un rôle magique parce que il va avoir dans ses mains une réflexion dont il ne verra peut-être pas les fruits. Bon. Alors je dis peut-être parce que bien sûr sur certaines parcelles on va avoir différentes sylvicultures. Alors vous allez là aussi avoir ce choix dans la sylviculture, c'est-à-dire vous allez soit une sylviculture qu'on va appeler proche de la nature, c'est-à-dire de régénération naturelle, et on va laisser un couvert continu et on va venir laisser sur un même espace des arbres matures, des vieux, des moyens, des tout petits, et puis vous allez avoir des espaces sur lesquels ça va être moins facile. C'est le cas notamment pour le peuplier, on peut moins faire ça, et donc à ce moment-là on va venir faire une récolte de peupliers, on va venir les couper tous, on va retravailler parfois le sol, et puis on va replanter. On s'aperçoit que le sylviculteur a plusieurs défis à surmonter. Le défi climatique est évident. Alors, que l'on parle du réchauffement ou pas du réchauffement, en tout cas de bouleversement climatique, c'est sûr. Et donc, il va devoir tenir compte à la fois de ses sols, de ses coups de vent et de ses coups de chaud et de ses coups de froid qui arrivent, et puis de la production qu'il veut mettre en place. Et c'est là où, qu'on soit propriétaire, on se rapproche parfois d'experts, parfois de syndicats, parfois de coopératives, ça peut arriver, pour avoir un certain nombre de conseils et prendre des paris. En fait, nous faisons des paris sur l'avenir et on voit bien que les défis auxquels on va être confrontés sont complexes. Avec et là on va parler de multifonctionnalité. On demande que nos forêts soient plus ouvertes, mais on veut préserver la biodiversité. On veut produire du bois, mais en même temps, on veut tenir compte des différents systèmes qui peuvent y tourner. Et là, notre métier de sylviculteur prend tout son sens. Mais c'est vrai que ces défis sont à la fois... Et c'est dans ce sens-là aussi que notre communiqué prend place. Parce que si on veut préserver la biodiversité... On cherche pas à mettre nos forêts dans une bulle. On cherche juste à dire, si on veut une régénération naturelle, est-ce que c'est compatible avec une présence de public très importante? Parfois, on peut dire oui, parfois on peut dire non. Est-ce que si on a des zones Natura 2000 avec des flores, un peu de faune, un peu de flore exceptionnelle ou des choses particulières, si on met trop, si on insiste trop en disant sur certains secteurs, voilà ce qui est de magique, alors tout le public va venir se précipiter dessus. Est-ce qu'on est bien en cohérence entre une action qui est de préserver et une action qui est de montrer et de faire partager? Et ça, c'est le dilemme du sylviculteur qui est bien sûr pas simple.
Alors, dans les forêts privées et non privées, il y a aussi une biodiversité à préserver. Oui. Alors, quelle est-elle dans les forêts privées sartoises?
Alors, en fait, il y a eu une grande étude qui a été faite il y a maintenant quelques années, par la région Pays de Loire qui a souhaité réunir plusieurs structures de naturalistes. La LPO en fait partie, mais il y a eu le Grecia, il y a eu le Centre Armorique de Brest. Et dans chaque département, on a choisi une forêt publique et une forêt privée. En Sarthe, on a choisi Bercé, et puis la forêt de Vibray, une partie de la forêt de Vibray, dont je suis un des co-gérants. Et on a fait une grande rencontre avec les naturalistes. Alors ça a été un bon moment, parce que il y a 10 ans, il y a 15 ans, les forestiers ne voulaient pas avoir les naturalistes. Et il y avait plein de préjugés. Et puis les naturalistes disaient, mais non, mais nous on sait faire la biodiversité, mais pas les forestiers. Aujourd'hui, on a fait un pas énorme en se rencontrant, en travaillant ensemble sur cette biodiversité. Alors on va retrouver des scarabées, on va trouver des oiseaux, on va trouver des chauves-souris très importantes. Et donc, toutes ces structures sont venues faire leur étude dans ces différentes forêts. Et pour l'anecdote, je me souviens très bien de la première rencontre qu'on a eue. Et si vous les interrogez, enfin si vous interrogez les responsables de la LPO, notamment Sarthe qui était là, je leur ai dit, bah, écoutez, normalement, soit on doit pas s'entendre dans les 10 minutes, ou alors on va faire de très belles choses ensemble. Et on s'est très bien entendu. Alors comme toujours, les belles rencontres, c'est d'abord des rencontres de personnes qui s'écoutent et qui comprennent le métier des uns et des autres. Donc nous, on a essayé de comprendre le métier des naturalistes, et ces mêmes naturalistes ont essayé de comprendre un peu ce que nous faisions en forêt. Et ça a été très intéressant. La suite de cette rencontre, ça a été une grande étude sur la restauration des mares forestières. On voit bien que la gestion de l'eau, elle est éminemment importante en forêt, et trop longtemps, ces mares ont été un petit peu abandonnées. Et la LPO a monté un projet avec la région Pays de Loire pour restaurer les mares forestières en forêt privée. Et ça a été un vrai succès. Nous avons fait notre assemblée générale l'année dernière sur cette notion de biodiversité en faisant intervenir des naturalistes. Et au mois de mai 2019, j'ai fait une réunion en forêt avec des adhérents de la LPO, des forestiers et des membres de la Fédération des chasseurs. Je pense qu'en Sarthe, ça n'existe nulle part ailleurs, une rencontre comme celle-là et une manière de pouvoir s'écouter et de comprendre les objectifs des uns et des autres. Et ça, si un jour vous avez l'occasion de faire un petit tour d'une table ronde avec ceux qui ont participé à ce projet-là, ça peut être assez étonnant.
Alors, en dehors de la Ligue de protection pour les oiseaux, oui, vous travaillez aussi avec l'ONF. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Alors, l'ONF, en fait, on a... ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, de temps en temps, voulu opposer la forêt publique et la forêt privée. Nous, avec notre syndicat, et puis les hommes ou les femmes qui la composent, eh bien, en fait, nous, on souhaite un vrai échange. Je prends juste un exemple. En forêt de Vibray, qui est une forêt privée, nous avons accueilli des ingénieurs de l'ONF du Nord-Île-de-France et de Normandie qui sont venus se former à notre sylviculture. Donc il y a des échanges. Pendant des années, les agents de l'ONF ont eu des directives très strictes et très importantes. Comme les forêts privées, il y avait un seul modèle. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas qu'un seul modèle, il y a plusieurs modèles. Et pour ça, il y a beaucoup d'échanges. Nous, on va régulièrement en forêt publique rencontrer par exemple dans d'autres territoires. On va dans les forêts de l'Est, on va pas uniquement, on sort un petit peu de notre cadre. Et puis d'autres territoires de forêt publique, type ONF, viennent nous rencontrer et passent une journée avec nous et martèlent des arbres. On va parler de martelage pour marquer des arbres. Et on va s'intéresser à ce qui nous rapproche. Et on va s'intéresser à peut-être ce qu'on fait de différent, mais qui peuvent être complémentaires. Et ça, moi, j'y tiens beaucoup parce que souvent, on oppose le public, le privé. Bien sûr, les forêts publiques ont des moyens que les forêts privées n'ont pas pour accueillir et communiquer. Mais néanmoins, on a beaucoup de choses à apprendre ensemble et moi, je trouve ça fascinant.
Alors, la Fédération Francilva organise ou gère aussi des chantiers groupés. Alors, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors ça c'est un projet qui vient pas forcément au départ de Francilva 72. Il faut remettre un contexte, c'est la communauté de communes de Loré du Bois Bélinois, qui avait dans leur conseil des passionnés de forêt. Et qu'ils s'apercevaient qu'il y avait des territoires où les propriétaires avaient des toutes petites parcelles, un demi-hectare, quelques arts, deux, trois, quatre, ou une trentaine pour les plus gros. Mais en réalité, c'est difficile de faire une sylviculture ou de vendre du bois, autre que pour le bois de chauffage, quand on a des superficies petites comme celle-là. Alors elles ont décidé de travailler en commun avec une structure parapublique qu'on appelle le Centre Régional de la Propriété Forestière, qui ont des techniciens et des ingénieurs dans chaque département, et Loré du Bois Bélinois et le CRPF ont décidé de mettre en commun leurs moyens. On met une personne en la présence de Jean de Falandre qui gère ce projet pour les deux structures, et ils ont souhaité que le syndicat puisse les accompagner et les aider dans leur projet. Et ça, c'est un. Donc on est au cœur du sujet. Comment on peut récolter des bois, comment on peut dynamiser un territoire, et comment on peut travailler ensemble. Et ça, c'est novateur en Pays de Loire. Donc c'est le premier projet qui est en train de sortir. D'autres projets en Sarthe regardent ce premier projet. Donc nous avons fait un appel d'offres dans un premier temps pour marteler, c'est-à-dire que on va faire ce marquage dans les mois qui viennent. Là, ça concerne une cinquantaine de propriétaires qui ont décidé de se regrouper pour pouvoir intéresser des structures qui viennent marteler chez eux ou avec eux, ou le propriétaire souhaite marquer tout seul, et à ce moment-là, c'est fait dans ce sens-là. Et puis, une deuxième étape, qui sera un peu plus tard, où on va vendre les bois marqués, et là, les propriétaires recevront le fruit du travail qui aura été fait. Ce que je veux dire là, c'est qu'on vient dynamiser des territoires. C'est-à-dire que là où il ne se faisait pas grand-chose, on vient faire quelque chose. On vient donner à la forêt eh bien, le sens qu'elle a, qui est de produire, et puis on va associer et regrouper des propriétaires qui ont décidé de vivre un bout de vie commune, et ça, c'est assez génial. Donc moi, j'ai voulu que notre syndicat soutienne énormément ce projet-là, parce que je trouve que c'est assez satisfaisant, quoi. On vit une époque où on est bien chez soi, et puis on n'a pas envie de trop... de trop en faire, ensemble en tout cas, et bien là, c'est exactement le contraire. On travaille ensemble, on met des structures, vous prenez une communauté de communes, vous prenez un centre régional de la propriété forestière, vous prenez un syndicat de propriétaires forestiers, et ça, là aussi, c'est assez unique en son genre, il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, c'est pour les Pays de Loire, on est précurseur.
Alors aujourd'hui, comment devient-on propriétaire de forêts privées?
Eh bien, en fait, les gens le sont peut-être sans le savoir. Quand je vous dis qu'en Sarthe, il y a 30 000 propriétaires, il y a 30 000 personnes, 30 000 c'est énorme, il y a 30 000 personnes qui possèdent quelques arts ou un demi-hectare ou plus. Eh bien, ils sont, en fait, en réalité, ils sont déjà propriétaires forestiers. Et donc, quand vous avez un tout petit bois, on a des propriétaires forestiers qui ont démarré, ils n'avaient rien. Et puis, à côté de chez eux, il y avait un petit bois, mais on lui disait, ouais, mais il n'y a rien à faire dedans, tout a été enlevé. Et le propriétaire dit, non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est voir sur le long terme. Alors, il devient propriétaire, il achète, et puis après, il décide de le transmettre. Il décide de transmettre, et là, les enfants ou les petits-enfants reçoivent un bout de bois. Mais en fait, ils font autre chose, ils ont d'autres métiers et ils s'y intéressent pas forcément au départ. Et donc moi, j'insiste et je souhaite que chacun se sente responsable du bois, de la parcelle, de la petite forêt, qui ne savent pas forcément trop quoi faire dans un premier temps, de nous rejoindre et de voir que on peut faire quelque chose avec un espace boisé, même simple, réduit, etc. On peut faire plein de choses. Et ça, c'est génial. Enfin, je veux dire, la forêt donne cette notion de temps, donner du temps. J'insiste là-dessus parce que c'est pour moi, ça me parle. on veut téléphoner, on clique, on a une information, on va sur Internet. Ouais, mais la forêt, c'est pas ça. La forêt, eh bien, on va d'abord regarder ce qu'elle demande, on va voir son écosystème, et puis on va regarder ce qui s'y passe. Parfois, les gens préfèrent, quand ils ont un bout de forêt, ouais, mais on va louer la chasse, et puis ça va être bien. Oui, mais louer la chasse, c'est bien, mais ça dépend de ce qu'on veut transmettre. Si on veut transmettre un bout de forêt, alors il faut y penser. Et on peut très bien faire de la chasse et faire de la sylviculture. C'est pas du tout incompatible. En revanche, ce qui est important, c'est de pouvoir contrôler cet équilibre entre la faune et la flore. Ça, c'est très important. Parce que sinon, alors, on peut léguer demain un espace boisé, mais amoindri, affaibli. Et là, il peut y avoir, dans certains cas, un peu moins de biodiversité. Et donc, c'est un appel un peu aux consciences. Quand vous avez dans vos familles des oncles, des tantes, des parents, etc., qui ont un petit peu de forêt ou un petit bout de bois, etc., eh bien, c'est déjà génial. Et donc, qu'est-ce qu'on veut y faire? La chasse, c'est bien. Je suis chasseur et je suis chasseur et en même temps, je souhaite qu'il y ait des animaux pour longtemps. Et pour avoir des animaux pour longtemps, il faut un espace qui puisse nourrir pour longtemps. Et pour que cet espace puisse nourrir pour longtemps, alors il faut le préserver.
Alors, au début de l'interview, vous nous avez parlé du communiqué publié il y a quelques jours sur les dangers des personnes qui vont dans des forêts privées, pardon. Alors, en tant que sportif, que randonneur ou personne lambda, est-ce qu'on peut se rendre compte tout de suite qu'on est dans une forêt privée?
Non, pas toujours. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez des grandes forêts domaniales. Il y a des panneaux énormes, etc. Oui, on sait tout de suite qu'on est en forêt publique. En forêt privée, parfois, le propriétaire, soit il met entrée interdite, bon, mais alors dans un cas, on lui enlève, soit dans l'autre, les gens peuvent rentrer en disant, bon, on l'a pas vu. Il faut quand même regarder, tous les syndicats d'initiative de chaque commune ont répertorié des chemins communaux, les chemins pédestres de forêts domaniales ou les forêts privées. Et donc j'insiste vraiment pour que le public puisse se renseigner d'abord, prendre contact. S'ils veulent traverser une forêt privée, ils peuvent très bien prendre contact avec les propriétaires privés. Alors bien évidemment, parfois les réponses sont pas toujours soit positives, mais dans beaucoup de cas, on organise de plus en plus de rencontres à l'intérieur des forêts privées pour le public, alors dans un cadre relativement organisé, mais à chaque commune, les syndicats d'initiative peuvent avoir répertorié les chemins qui conviennent, justement pour faire du vélo, courir à pied, etc. La forêt a ceci d'incroyable, c'est que si on la préserve, et si on la préserver, c'est pas la mettre sous cloche. Hein. Préserver, c'est l'entretenir, c'est la faire vivre. Ça veut dire de. Et si on fait toutes ces opérations, alors on va avoir une forêt qui capte le CO2. C'est quand même un des rôles importants. Va filtrer l'eau. La forêt filtre l'eau et aujourd'hui c'est quand même essentiel. Et donc tous ces aspects-là, on peut en parler, on peut aborder ces thèmes-là avec le public. Pour autant qu'ils se soient renseignés au préalable pour qu'on puisse les accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Alors peut-être pouvons-nous parler un petit peu de France Sylva. France Sylva regroupe combien d'unions régionales, combien de syndicats départementaux et pour France Sylva 72, qui compose l'équipe?
Alors c'est en France, mon président national ne serait pas content si je ne sais pas répondre à cette question, mais enfin ça c'est pour le taquiner, il y avait environ 80 départements, et puis depuis cette année, sauf il y avait une grande poche qui était le sud-ouest, hein, les Landes. Les Landes avaient toujours été un petit peu à part, et la Fédération des Bois Landais a décidé de rejoindre la Fédération France Sylva nationale depuis cette année. Donc je dirais que la plupart des départements maintenant font partie. À chaque fois, dans chaque département, il y a un France Sylva de forêt privée. Et ça, c'est ça existe depuis ce syndicat. Alors ça s'appelait autrefois pas syndicat, ça s'appelait pas France Sylva. Ça s'appelait syndicat des propriétaires privés, etc. Ça a pris le nom France Sylva il y a maintenant 6-7 ans.
Alors concernant l'équipe sartoise, comment est-elle formée?
Alors nous avons 18 suite administrateur et j'ai souhaité, en tant que président, alors il y a une chose qui est importante, je ne crois pas aux présidences longues, mes administrateurs, s'ils m'écoutent, le savent, je ne crois pas aux présidences longues parce que ça use les présidents et puis on n'apporte plus grand-chose. Et donc on a 18 personnes autour de moi qui font partie de commissions très variées, la chasse, les PLUI, etc., pour qu'on puisse apporter à nos adhérents un maximum d'informations. Et surtout, ils sont représentatifs des propriétaires forestiers. J'ai souhaité, parce qu'il y a 30 ans, on va dire, c'était la plupart étaient propriétaires de surfaces globalement importantes. Aujourd'hui, dans mes administrateurs, les deux tiers sont propriétaires de surfaces plutôt petite, moyenne. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui représentent de gros massifs privés, mais néanmoins, c'est de loin maintenant la majorité. Et ça, c'est important. On doit être représentatif de nos adhérents. En tout cas, ça, c'est quelque chose que j'ai énormément développé au sein de nos administrateurs.
Pendant la période de déconfinement, toute l'équipe de Fréquence Sillé, comme pendant le confinement, est à votre service pour vous apporter l'information et vous faire entendre les témoignages toujours utiles sur les réalités du contexte. Une partie de notre équipe est revenue en studio, une autre demeure en téléactivité. Dans ce dernier cas, la qualité acoustique de certains entretiens peut être inférieure à l'habitude. Nous vous remercions de votre compréhension et merci à vous qui avez été extrêmement nombreux à nous écouter dans cette période et à consulter nos podcasts. Votre radio locale est là pour vous, pour le lien social.